La chanson de Roland. Livre premier. Le ressentiment. 1. Notre grand roi, l'empereur Charlemagne, s'est en tout plein et resté en Espagne, la conquérant des monts jusqu'à la mer. Pas de château qui tienne devant lui, pas de cité qui demeure debout, hors Saragosse, au haut de sa montagne. Marsile y règne, il n'adore pas Dieu, sert Mahomet et invoque Apollon. Mais le mal vient, il ne peut s'en garder. Le roi païen qui est à Saragosse s'en est allé dans un verger, sous l'ombre, et s'est couché sur un perron de marbre. Autour de lui sont plus de 20 000 hommes. Il en appelle à ses ducs, à ses comtes. Oyez, Seigneur, quel malheur nous accable. Charles le Grand, roi de France la douce, en ce pays nous est venu confondre. Et plus l'armée qu'il affronte en bataille, et plus d'armées qu'il affronte en bataille, et plus de gens qui dispersent ces gens. Conseillez-moi, vous êtes mes lumières, préservez-moi de la mort, de la honte. Il n'est païen qui réponde un seul mot, hors Blancandrin du château de Valfonde. Blancandrin fut un païen des plus sages, bon chevalier pour briller au combat, bon conseiller pour aider son seigneur. Il dit au roi, « Ne vous effrayez pas, mais promettez au superbe empereur loyal service et fidèle amitié, avec présent d'ours, de lions, de chiens, 700 chameaux, 1000 autours déjà grands, et 400 mulets qui traîneront 50 chars remplis d'or et d'argent. Voilà de quoi payer tous ces soldats. Mais trop longtemps c'est ici guerroyer, lui direz-vous. Rentrez en France, à Aix. Je vous joindrai, Vienne la Saint-Michel, et, me courbant sous la loi des chrétiens, serai votre homme en tout bien, tout honneur. Même s'il veut donner lui des otages, ou 10 souvains pour le mieux endormir. Envoyons-lui les enfants de nos femmes, dût-il périr, j'enverrai mon enfant. Mieux vaut encore qu'on leur coupe la tête, que s'il nous faut perdre biens et honneurs, et nous voir tous réduits à mendier. » Il ajouta, « J'en jure par ma droite, et par ma barbe aux poils longs et flottants, vous les verrez lever le camp en hâte et s'en aller en France, leur pays, revoir leurs fiefs et leurs riches domaines. » Charles, rentré dans son Aix-la-Chapelle, de Saint-Michel tiendra la grande fête. Le jour fixé pourtant se passera, sans que de nous on ait mot ni nouvelle. Le roi est fier, son cœur est implacable, de chaque otage il tranchera la tête. Mieux il vaut qu'ils y perdent leur tête que perdre nous la claire et belle Espagne et supporter tant de maux et souffrances. C'est ma foi vraie, murmurent les païens. 2. L'ambassade sarrasine. Le roi Marsile a levé son conseil. Il fait venir Clarin de Balaguer, Estramarin et son père Eudropin, et Priamon et Garland le barbu, et Machinère et son oncle Maheu, et Joïmer et Malbien d'Outremer et Blancandrin pour leur donner ses ordres. Ces 10 païens étaient des plus félons. Baron, dit-il, allez vers Charlemagne qui est devant la ville de Cordoue. Portez en main des branches d'olivier, symbolisant paix et soumission. Si par votre art vous nous mettez d'accord, vous recevrez de moi or et argent, terres et fiefs autant que vous voudrez. C'est nous combler, lui dirent les païens. Le roi Marsile a fini son conseil. Or ça, dit-il, Seigneur, il faut partir. Vous porterez des branches d'olivier, et de ma part direz à Charlemagne que par son Dieu il est merci de moi, qu'accompagné de 1000 de mes gens, j'irai le joindre avant le mois fini, que des chrétiens je recevrai la loi, et par amour, par foi serai son homme, qu'enfin, s'il veut, il aura des otages. Blancandrin dit « Vous aurez bon succès ». Marsile fit venir 10 mules blanches, beaux présents faits par le roi de Séville, avec freins d'or et selles d'argent pur. Les messagers sur les mules montèrent, portant aux mains des branches d'olivier. Ils vont où est le roi qui tient la France. Charles a beau faire, il sera pris au piège. 3. Charlemagne et Blancandrin. En belle humeur et joie est l'empereur, Cordoue est pris. Les machines de guerre, brisant ses tours, ont mis ses murs en pièces. Les chevaliers ont eu très grand butin, or et argent, et armure de prix. Pas un païen n'est resté dans la ville sans recevoir la mort ou le baptême. L'empereur Charles est dans un grand verger. Avec lui sont Olivier et Roland, le duc Samson et le fier Oséis, Geoffroy d'Anjou, gonfalonier du roi, Gérin, Gérier et maints autres seigneurs. On peut compter 15 000 Français. Ils sont assis sur de beaux tapis blancs et s'amusant jouent les uns au tric-trac, d'autres les vieux, les sages, aux échecs. Des chauvenceaux fringants font de l'escrime. Sous un grand pin auprès d'un églantier est un fauteuil, tout forgé d'or massif. Là sied le roi qui tient la douce France, sa barbe est blanche et son chef tout fleur. Bien fait son corps, fière sa contenance, qui veut le voir le reconnaît sans peine. Les messagers descendent de leur mule et saluent Charles avec grâce et respect. Blancandrin prend le premier la parole et dit au roi « Salut au nom de Dieu que vous devez adorer dans sa gloire. Mon vaillant roi vous fait savoir ceci. C'est en tant qu'île de la loi du salut, il vous fera grand don sur son avoir. Vous aurez ours, lions, beaux lévriers, 700 chameaux, 1000 autours déjà grands, 50 chars remplis d'or et d'argent, traînés ici par 400 mulets. Bref, tant et tant de besants d'or vermeil que vous pourrez payer tous vos soldats. Mais finissez de séjourner ici, en France, à Aix il vous faut retourner. Notre grand roi promet de vous y suivre. » L'or, l'empereur étend ses mains vers Dieu, baisse la tête et commence à penser. L'empereur en roi reste tête baissée, car en propos il ne fut jamais prompt. À sa coutume, il prend temps pour parler. Puis se redresse avec un fier visage. « C'est très bien dit, fait-il au messager, mais votre roi est mon grand ennemi. Qu'il m'envoie d'excellentes promesses, comment puis-je être assuré qu'il les tienne ?» Le sarrasin répond « Par bons otages, vous en aurez ou 10 ou 15 ou 20, même un mien fils au risque de sa vie, vous n'en sauriez avoir qui soit plus noble. Lorsque rentré dans le palais royal, vous fêterez Saint-Michel du péril, mon roi promet qu'il viendra vous rejoindre. À ces bains d'Aix que Dieu a fait pour vous. C'est là qu'il veut qu'on le fasse chrétien. » Charles répond, « Ce sera son salut. » Le soir fut beau et le soleil fut clair. Hospitalier pour les 10 messagers, Charles fit mettre à l'étable leur mule et fit dresser aux vergers une tente où jusqu'au jour ils passèrent la nuit. 12 sergents durent prendre soin d'eux. De grand matin, l'empereur s'est levé. Après avoir oui, messe et matine, il va s'asseoir à l'ombre d'un grand pin et dit qu'on mande au conseil ses barons. Par ceux de France, en tout il veut marcher. 4. Le conseil tenu à Cordoue par Charlemagne. L'empereur roi est assis sous un pin et ses barons viennent tenir conseil. Le duc Augier, l'archevêque Turpin, Richard le Vieux et son neveu Henri, Thibaut de Reims et son cousin Milon, et Asselin, preux-comte de Gascogne. Ils étaient bien plus de 1000 Français. On y voyait Gérin et Gérier. Avec eux vint Roland, le noble comte, accompagné du vaillant Olivier. Puis vint celui qui trahit, Ganelon. Lors commença ce conseil de malheur. Seigneur baron, dit Charles l'empereur, le roi païen m'a transmis un message. De son avoir, il me donne part grande. Des lévriers, des lions et des ours, 700 chameaux, 1000 autours déjà grands, 50 chars remplis d'or d'Arabie et attelés de 400 mulets. Mais il prétend qu'en France je retourne. Il me suivra à Aix en mon palais pour recevoir notre loi de salut. Et fait chrétien tiendra de moi ses terres. Le veut-il bien en son cœur, je ne sais. Et tous de dire, il nous faut prendre garde. Quand l'empereur a fini son discours, le prompt Roland, qui n'admet pas d'entente, se met debout et contredit son oncle. Il dit au roi, « Fou qui croirait Marsile, voilà 7 ans nous sommes en Espagne. J'ai pris pour vous Hénoples et Comibles. Conquis Valterre et la terre de Pine, et Balaguer et Tudel et Séville. Marsile, lui, n'a fait qu'œuvre de traître. Il envoya jadis 15 païens, portant chacun une branche d'olive et vous disant des paroles semblables. De vos Français vous prîtes le conseil. On vous loua de faire une folie. Et ce païen reçut 2 de vos comtes, Bazan, Basile, envoyés de par vous. Que fit-il d'eux? Il les décapita. Leurs têtes sont sur les monts Altoï. Poussez la guerre ainsi qu'elle s'est faite. Menez l'armée assiégée Saragosse. Y dussiez-vous peiner toute la vie et venger ceux que tu as ce félon. L'empereur, sombre et la tête baissée, tord sa moustache et tourmente sa barbe, sans dire oui ni non à son neveu. Tous sont muets, tous hormis Ganelon, lequel se lève et s'en vient devant Charles. D'un air superbe, il se met à parler. « Ô roi, dit-il, qu'un autre parle ou moi, n'écoutez rien sinon votre avantage. » Le roi Marsile aujourd'hui vous avise qu'à jointe main il se fera votre homme, tenant de vous en don toute l'Espagne, puis recevra la loi que nous suivons. Qui vous exhorte à rejeter ses offres, point ne lui chaud qu'elle mort nous attend. Conseil d'orgueil ne doit point prévaloir, laissons les fous et tenons-nous aux sages. Lors vers le roi s'avance le duc Nesmes. Charles n'a pas de vassal plus fidèle. Il dit au roi, « Vous avez entendu comment vous a conseillé Ganelon. L'avis est bon, qu'il soit donc écouté. Ce Marsile est un vaincu de la guerre. Vous lui avez détruit tous ses remparts, pris ses châteaux rasés par nos machines, battu ses gens et brûlé ses cités. Or, il vous dit d'avoir pitié de lui, pour sûreté vous offrant des otages. Exiger plus serait vraiment péché. Mettons un terme à cette grande guerre. » C'est bien parlé, crièrent les Français. 5. Le choix du messager. Seigneur baron, qui de vous enverrai-je à Saragosse auprès du roi Marsile? Ney me répond, j'irai si ça vous plaît. Octroyez-moi le bâton et le gant. Le roi reprend, vous êtes un sage homme. Par cette barbe et par cette moustache, vous n'irez pas si loin de votre roi. Rasseyez-vous, vous n'avez rien à dire. Seigneur baron, qui de vous enverrai-je au sarrasin qui règne à Saragosse? Roland répond, j'y puis fort bien aller. Gardez-vous-en, dit le comte Olivier. Votre cœur est trop ardent et farouche. Vous vous feriez, j'en ai peur, quelque affaire. J'irai plutôt, s'il plaît, à l'empereur. » Le roi reprend. « Taisez-vous tous les deux. Ni vous ni lui n'y porterez les pieds. Non, par ces poils que vous voyez blanchis, je n'enverrai aucun des 12 pères. » Chacun se tait et attend en silence. Turpin de Reims se lève de son rang et dit au roi « Laissez en paix vos francs. Depuis 7 ans que vous êtes ici, ils ont assez eu peines et labeurs, à moi d'avoir le bâton et le gant. J'irai trouver ce sarrasin d'Espagne, je prétends voir un peu comme il est fait, et lui marquer ma façon de penser. » Mais l'empereur répond d'un ton fâché, « Rasseyez-vous sur votre tapis blanc, et plus un mot, sauf si je vous l'ordonne. » Chevalier franc, dit le grand empereur, pour messager auprès du roi Marsile, élisez-moi un baron de ma terre. » Alors Roland, prenez donc mon parâtre, vous ne sauriez en choisir un plus sage. Oui, dit chacun, il fera bien l'affaire. 6. La dispute de Ganelon et de Roland. L'empereur dit : Ça, venez, Ganelon, et recevez le bâton et le gant. Vous l'entendez, les Français vous désignent. Lors, Ganelon, Roland a tout fait, sire. Non, jamais plus je n'aimerai Roland, ni Olivier qui est son compagnon, ni tous ses pères qui aiment tant Roland. Devant vos yeux, sire, je les défie. Chut, dit le roi, c'est là trop de rancune. Vous partirez par ce que je leur donne. J'y puis aller, mais c'en est fait de moi comme jadis de Basile et Bazan. Soit, je le dois, j'irai à Saragosse, qui va là-bas, pourtant n'en revient point. Or, songez-y, votre sœur est ma femme, j'ai d'elle un fils, il n'est plus bel enfant, et mon Baudouin promet d'être un vrai preux. À lui je laisse et mes fiefs et mes terres. Soyez-lui bon, je ne le verrai plus. » Le roi répond : C'est trop vous attendrir. Il faut partir puisque je le commande. » Le comte Gan a grande angoisse au cœur. Faisant tomber ses fourrures de martre, il n'a gardé que sa blouse de soie. Ses yeux sont gris, très fier est son visage, svelte son corps et large sa poitrine. Tant il est beau, tous les regards l'admirent. Apostrophant son beau-fils avec force, « Fou, s'écrie-t-il, d'où te vient cette rage? On le sait bien que je suis ton parâtre. Donc, il t'a plu que j'aille vers Marsile. » Roland, « Si Dieu permet que j'en revienne, je te ferai subir si fort dommage qu'il n'aura pas d'autre fin que ta vie. » Roland répond : Cet orgueil est folie. On sait assez si j'ai peur des menaces. Pour ce message, il faut un prudent homme. S'il plaît au roi, j'irai à votre place. » Gan reprend : Tu n'iras point pour moi. Suis-je un seigneur dont tu sois le vassal ? Charles commande, il faut que je le serve. J'irai trouver Marsile à Saragosse, mais j'y ferai, qui sait, quelque folie, pour apaiser ma très grande colère. » Roland l'entend et il se met à rire. Quand Gan voit que Roland rit de lui, son cœur se fend, tordu par la colère, et peu s'en faut qu'il ne perde le sens. « Roland, dit-il, je ne vous aime pas, car c'est de vous que vient ce choix injuste. Droit empereur, me voici devant vous, prêt à remplir votre commandement. » 7. Mauvais présage. Bon sire Gan, écoutez, dit le roi, vous partirez accomplir ce message. Parlant pour moi, dites au roi Marsile qu'à jointes mains il soit mon homme liege. À lui sera la moitié de l'Espagne. L'autre moitié, je la donne à Roland. s'il ne s'y prête, il faut bien l'aviser que par mon ordre il sera pris, lié, dûment jugé, pour fait de trahison, et mis à mort en grand deuil et opprobre. Voici l'écrit revêtu de mon sceau. Dans le poing droit, livrez-le aux païens. Charles lui tend le gant de sa main droite. Mais Ganelon voudrait être bien loin. Il le prend mal et le gant tombe à terre. Dieu, s'écrie-t-on, que présage cela? Un grand malheur suivra donc ce message? Vous le saurez, Seigneur, dit Ganelon. Il ajouta. Donnez-moi congé, sire. Devant partir, je ne veux plus attendre. Allez, au nom de Jésus et au mien, dit l'empereur. De la droite, il l'absout et fait sur lui le signe de la croix. Puis il lui remet le bâton et la lettre. 8. Le départ de Ganelon. À son logis, Gane s'en est allé pour y vaquer à son équipement. Il se revêt de ses meilleures armes, fixe à ses pieds de beaux éperons d'or, ceinte au côté murglet sa bonne épée, fait amener son cheval tache brun et saute en selle, aidé par Guinemer, qui est son oncle et lui tient l'étrier. Vous auriez vu maint chevalier pleurer. Tous lui disaient « Quel malheur est sur vous, vous si ancien dans la cour du roi Charles !» Vous renommé comme noble vassal. Ah, le Seigneur qui vous force à partir, même le roi ne saurait le défendre. Pourquoi Roland eut-il telle pensée? Vous êtes né de parenté si haute. Ils ajoutaient, emmenez-nous, beau sire. Mais Ganelon, non pas, à Dieu ne plaise. Vous, de tels preux, mourir, je mourrai seul. Vous reviendrez dans notre douce France. Saluez-y ma femme de ma part, Épinabel, mon père et mon ami, et puis Baudouin, mon fils que vous savez. Aidez-lui bien, tenez-le pour seigneur. Il suit sa voie et va par les chemins.